VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan. En l'absence des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent leur marginalisation dans la procédure. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Madame Gbagbo, 66 ans, comparée pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Ce nouveau procès devrait durer un mois et verra la participation de 25 témoins de l'accusation. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo est actuellement incarcérée à Abidjan, où elle purge une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier. La Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la Lido et le mouvement ivoirien des droits de l'homme MIDH, qui disent représenter près de 250 victimes, ont annoncé lundi leur décision de se tenir à l'écart du procès. Human Rights Watch a de son côté évoqué un moment charnière pour la justice si les victimes ont droit à un procès crédible, équitable et suivi par d'autres procès visant les auteurs de violations des droits humains des deux parties de la crise post-électorale de 2010-2011.
Au Burkina Faso, Eddy Constance Kombogo, chef du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, est de nouveau libre. Il a bénéficié lundi d'une mise en liberté provisoire, selon des sources concordantes à Ouagadougou. Fin janvier, Kombogo avait été inculpé et mis sous mandat de dépôt, notamment pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat lors du putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne de M. Compaoré, le 17 septembre contre la transition. Crise au Mali maintenant, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et la coalition de groupes armés pro-gouvernementaux maliens, dite la plateforme, ont appelé lundi à Alger à accélérer la mise en place d'une autorité de transition dans le nord du Mali. Des détails avec Timothée Donangmaï.
L'objectif de la rencontre d'Alger, à laquelle a assisté le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, était de débattre des principales causes entravant l'application des points essentiels de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, a indiqué le représentant de la CMA, Mohamed Maouloud Ould Ramadan, que cite l'agence officielle algérienne APS. Déplorant le fait qu'aucun point de l'accord n'a été appliqué jusqu'ici, le représentant de la CMA a appelé la communauté internationale et la médiation internationale conduite par l'Algérie à consentir davantage d'efforts pour sauver l'accord. L'Algérie dirige le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation qui avait été mis en place en juin 2015 afin de superviser la mise en application de l'accord de paix. En mars, la 7e session de ce comité à Bamako avait fait état d'avancées significatives concernant la mise en place d'administrations transitoires dans le nord du Mali.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les défis de sécurité, de gouvernance et de développement qui se posent aux pays de la région du Sahel sont liés au changement climatique. C'est certainement l'opinion de l'Union africaine. Pour comprendre ce phénomène, Eric Manirakiza a joint à New York le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, qui l'a expliqué devant le Conseil de sécurité de l'ONU. On écoute le major Pierre Buyoya.
Pour moi, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. J'ai pu, par exemple, indiquer comment, dans le conflit malien, il y a la part de la grande sécheresse de 1973 qui a fait que les populations du Nord ont émigré massivement en Libye. Et quand ils sont revenus en 2012, ils sont revenus en armes. Et c'est ça qui a déclenché toute la crise. Parce que cette région, c'est une région extrêmement vulnérable sur le plan du climat, de l'écosystème, ce qui a un impact direct sur la vie des populations. C'est une région qui connaît un déficit important sur le plan alimentaire, qui connaît des catastrophes naturelles régulièrement, la sécheresse, l'inondation. Et tout cela a comme conséquence de fragiliser les populations. Elles sont à la merci de tous les aventuriers qui viennent là-bas, des terroristes, des trafiquants de drogue.
Et à vous donner l'exemple du Mali, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont très affectés par ce phénomène?
Autour du lac Tchad, comment la détérioration de l'environnement autour du lac Tchad a fragilisé les populations là-bas, ce qui fait que cette région est devenue un terreau de recrutement pour Boko Haram.
Vous avez sans doute proposé des recommandations ou des voies de solution.
Comment lutter contre la désertification, comment faire la restauration des terres pour fixer les populations sur leurs terres, comment améliorer la subsistance de ces populations. La réponse est, il faut aller la rechercher dans la problématique du développement d'une façon globale. Par exemple, on a parlé d'appuyer fortement ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la Mirai verte, comment qu'il faudrait réhabiliter le lac Tchad, qui est un lac qui est en voie de disparition.
Y a-t-il une responsabilité quelconque des États dans ce qui s'est passé?
Il y a une responsabilité des États dans le sens de dire que les États ont la première responsabilité de lutter contre le changement climatique, notamment en s'appuyant sur le fameux accord de Paris.
L'ex-président burundais Pierre Buyoya joint à New York. Au Tchad, 6 des candidats malheureux à l'élection présidentielle du 10 avril sont convoqués ce mardi à la police judiciaire de N'Djamena. En l'absence de 2 d'entre eux, le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, et Laokeyin Korayo, qui ne sont pas disponibles, 4 des candidats se disent prêts à répondre à la convocation. Chérubin Dorsil a recueilli la réaction de l'opposant Galigata Ngote.
Rien n'a été mis dans la convocation, donc on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais quelques indiscrétions nous ont fait savoir qu'il s'agit en fait d'une conférence de presse que nous aurions faite sur la disparition des militaires et qu'on voudrait nous écouter en tant que témoins. Je réagis en disant que nous ne sommes pas témoins de tels événements dans la mesure où nous n'avons pas assisté directement aux arrestations, aux déportations, aux disparitions des gens. S'il y a des témoins à chercher, c'est dans les camps militaires et dans les postes où les militaires ont voté. Nous ne sommes pas témoins. Ensuite, nous ne sommes pas plaignants parce que nous ne sommes pas les parents de ces militaires. Indirectement, nous nous sentons concernés dans la mesure où ce sont des gens qui ont voté pour l'opposition et c'est le prétexte que le gouvernement a trouvé pour pouvoir les arrêter. Mais dans tous les cas, c'est l'expression de leurs droits constitutionnels et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait les arrêter sur ce chapitre-là.
Vous allez répondre à cette convocation?
Oui, nous y allons. Nous ne voulons pas leur laisser cette possibilité de nous reprocher quoi que ce soit. Nous y irons, mais je ne crois pas que nous allons répondre à ce qu'ils attendent de nous.
L'opposant Gali Ngote joint à N'Djamena par Chérubin Dorsil. Au Congo-Brazzaville, la justice a décidé hier de déférer l'opposant Paulin Makaya, détenu sans procès depuis 6 mois, devant un tribunal correctionnel pour incitation à troubles de l'ordre public. C'est ce qu'a annoncé son avocat, maître Eric Yvon Ibuanga. Les autorités congolaises reprochent au leader de la petite formation Unie pour le Congo, UPC, d'avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre contre le référendum autorisant le président Denis Sassou Nguesso à briguer un 3e mandat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant, la lutte contre le groupe État islamique en Irak pour commencer. Les forces pro-gouvernementales irakiennes font face aujourd'hui à une forte résistance du groupe État islamique dans leur progression vers le centre de la ville de Fallujah, où le sort de dizaines de milliers de civils bloqués suscite de vives inquiétudes. Soutenue par l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis et conduite par l'unité d'élite irakienne de contre-terrorisme, les Irakiens sont entrés lundi dans Fallujah au 8e jour de leur offensive pour chasser l'État islamique de cette ville située à 50 km à l'ouest de Bagdad. Et puis en Afghanistan, les talibans ont pris en otage aujourd'hui des dizaines de passagers d'autocars et en ont exécuté au moins 16, soupçonnés de travailler pour le gouvernement afghan. Une nouvelle preuve de leur intention de poursuivre le combat une semaine après la désignation de leur nouveau chef. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la nomination la semaine dernière du mollah Abitullah Akhundzada, un érudit religieux peu versé dans la stratégie militaire qui a succédé au mollah Mansour, tué par un drone américain au Pakistan. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.